15h03 sur France Inter, on retrouve Daniel Marmet, là-bas si j'y suis.
Voilà, je vous appelle pour réagir au propos de Monsieur Bayrou qui dit à tout le monde acheter français, acheter français. Bah moi je veux bien acheter français. Là je cherchais des combinaisons de ski pour les enfants, ça fait 5 magasins de sport que je fais. Et on n'a même pas d'alternative. Il n'y a même pas de marque française, c'est que chinois, 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 chinois. Là que ça. On est envahi de produits chinois de partout, de partout. Bah Monsieur Bayrou, hein, sortez un peu pour voir, hein, puis dites-moi où trouver du matos français, j'irai peut-être y faire un tour.
Ce dimanche circulera le premier train privé de voyageurs en France. À la mi-novembre, les parlementaires européens de droite et socialistes ont voté pour la poursuite de la libéralisation du secteur ferroviaire, tandis que les Verts s'abstenaient. Seul le groupe de la gauche unitaire européenne a voté contre, comme le réclamait l'ensemble des syndicats cheminots. Régis, de Nîmes.
Bordel, qu'est-ce que c'est bien tes émissions, Daniel, là. Ton reportage sur la Grèce, d'un seul coup, ça nous ouvre des horizons. On commence à comprendre énormément plus de choses. Bravo.
Oui, bonjour, c'est Cécile. J'appelle parce que ça fait déjà plusieurs fois que Daniel nous dit qu'on est concerné par ce qui se passe en Grèce, qu'il faut bien écouter pour comprendre et essayer éventuellement de se battre. Mais ça s'est déjà passé dans plein d'endroits, en particulier en Afrique, il y a quelques années déjà. Ça s'appelait les plans d'ajustement structurel, c'est exactement la même chose. Ils ont privatisé un peu tout ce qu'ils pouvaient privatiser. Et on nous a raconté que les Africains ne savaient pas s'en sortir, etc. Et on nous raconte la même chose sur les Grecs. Si on avait écouté un peu les Africains à l'époque, comme par exemple Madame Aminata Traoré, je conseille à tout le monde de lire ses livres, on aurait mieux compris ce qui nous arrivait quand ça nous arrivait dessus. Voilà, merci, au revoir.
Bonsoir, je m'appelle M. Issa Cissé, je suis le porte-parole des familles expulsées à la rue des Sorins à Montreuil. Nous étions 300 personnes dans notre bâtiment, on a été expulsés le 31 juillet. Nous campons aujourd'hui au stade André Blin à Montreuil. Et le 11 décembre 2011, nous organisons un grand concert de soutien pour aider les familles au relogement et à la régularisation de tous les compatriotes. Nous invitons des Françaises et des Françaises à venir massivement s'ajouter à la voix des Sorins à un grand concert que nous organisons à la salle des fêtes de la mairie de Montreuil avec des chanteurs Sans Servirino, Jeanne Charel, Lester Bilal, Farah Touba et beaucoup d'autres surprises. Vous êtes invités et le rendez-vous, c'est de 14h30 à 23h dans la salle des fêtes de la mairie de Montreuil. Place Jean Jaurès. Merci.
Je vous appelle pour donner quelques nouvelles d'Elsa Fornero, de manière à ce que nos auditeurs, enfin vos auditeurs, ne soient pas inquiets plus que ça. Donc Elsa Fornero, elle est ministre des Affaires sociales, elle est professeure à l'université de Turin, et elle pleure d'épuisement psychologique face aux exigences de la rigueur qu'elle est à conduire. Mais Elsa Fornero occupe le poste de vice-présidente du conseil de surveillance de la banque Intero San Paolo, qui fera profiter à tous ses actionnaires, dont Elsa Fornero, d'un gain exceptionnel d'un milliard d'euros pour seulement le quatrième trimestre 2011. Donc j'espère que bon, ça ira mieux, quoi. Ça m'inquiétait un petit peu, mais bon, je pense que ça ira beaucoup mieux. Enfin, il faudra que les Italiens s'y fassent. À bientôt.
Merci de nous rassurer. C'est pas mal quand même, hein, le répondeur de la passivisation. On apprend des choses et des précisions sur des scènes ou des images qui avaient pu nous émouvoir. Quelqu'un nous a dit dans le répondeur que, ou un message qu'on a reçu, qu'un élu député ou ministre argentin avait lui aussi été pris d'émotion, était tombé en larmes en annonçant quelque chose de semblable à ses compatriotes. Bah oui, c'est l'émotion. C'est l'émotion, puis après il y a l'information, puis après il y a la réflexion, peut-être. Et puis après la réflexion, parfois il y a l'action. Voilà, c'est ma petite leçon du jour pour commencer. Aujourd'hui, on continue en Grèce, suite et fin de ce voyage en Grèce, presque exclusivement, d'ailleurs exclusivement, à Athènes. Et alors aujourd'hui, vous allez voir, on va pas être entièrement négatif d'un bout à l'autre, montrer un aspect absolument désolé de ce cher pays berceau de notre civilisation. On va vous donner envie d'y aller, surtout si vous êtes banquier. Maintenant, les banquiers y vont, les fabricants de casques de chantier pour les manifs se rendent là-bas pour vendre leurs produits, les marchands de gaz lacrymogène, de bombes assourdissantes, enfin, il y a quand même un marché. Et puis, il y a les banquiers français, notamment, puisque les banques françaises sont très impliquées dans cette affaire. Donc, les banquiers français sont conduits à se rendre en Grèce et donc d'y faire du tourisme et puis d'y prospérer. Et puis surtout, n'oubliez pas une chose, entre nous, la Grèce est à vendre. Vous pouvez acheter plein de choses en ce moment. Ah oui, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Vous pouvez acheter l'électricité, le chemin de fer, vous pouvez revenir avec une île. Enfin, voilà, donc on va montrer le côté positif d'ici à 16h dans la basse Égyptie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, ici Thérèse Basse. Je vous annonce que samedi 10 décembre 10h30, nous vous invitons à l'inauguration citoyenne de la place Louise Michel à Marseille, dans le quartier de Belzunce. Le rendez-vous est au 31 rue des Petites Maries. C'est le point de départ d'un projet de réhabilitation du quartier porté par ses habitants, un véritable acte de démocratie participative à l'heure où certaines catégories de population sont dévaluées. Donc je vous appelle à venir très nombreux nous rejoindre pour participer à cette opération. Merci et à demain.
Un renseignement généreux. Je vous propose de regarder sur YouTube LCP les derniers jours d'un trader. 50 minutes, vous y verrez très bien expliquer ce qu'est la crise, avec Jacques Sapir, Akram Baikaï, Frédéric Lordon, Michel Rocard, Yves Salès, Aurélie Trouvé d'Attaque. Bon week-end les amis, au revoir.
Bonjour à tous, Dulphy, vous connaissez? C'est un village de 3000 habitants dans la Drôme provençale. Ses habitants ont accueilli et caché 1000 juifs durant la dernière guerre. C'est un village où plus de 800 personnes ont manifesté contre la présence de Le Pen au deuxième tour. C'était en 2002. Et c'est ici que demain, samedi 10 à 10h, sera organisé un rassemblement contre l'austérité. Venez nombreux, c'était Serge de Dulphy.
Alors moi, ce qui m'a réjoui dans cette émission, c'est pas le fait que les Grecs sont vraiment au dernier stade de la déchéance, puisque il manque les produits essentiels pour faire les analyses de base dans les hôpitaux. Mais le fait que Daniel Mermet et son équipe vont dans quelques temps faire des économies. Parce que pour la prochaine émission, ou peut-être une émission dans quelques semaines, quelques mois, ils feront des économies vu qu'ils n'auront pas besoin de payer des frais de traducteur pour l'émission quand elle se déroulera en France. C'est Alain Desvreux.
La Grèce! La Grèce outragée, la Grèce brisée, la Grèce martyrisée, mais la Grèce privatisée.
L'endroit au monde où vous n'attendez pas un taxi plus d'une seconde, c'est Athènes. Là, il y a une file de taxis, il y a 30 taxis qui attendent. Et ça, c'est un signe, évidemment, de cette crise. Plus personne ne prend le taxi. Et les gars attendent des heures dans leur bagnole.
Il faut savoir qu'une course habituelle, en moyenne, dans un taxi, d'un endroit à l'autre, coûte dans les 5€, la plupart du temps. Et ces 5€, il y a encore un an, les gens, ils se le payaient presque aussi facilement qu'un métro ou un bus. Et maintenant, ben, ils n'ont plus le 5€ en trop.
Il y a aussi des choses qu'on n'arrive pas, parce que nous, on est, évidemment, on ne parle pas grec, c'est sur les boutiques, sur les balcons, sur les maisons, à louer ou à vendre.
Le fameux enikiazete ou pouliete, à louer ou à vendre. C'est dorénavant omniprésent partout.
Plus les vitrines, les boutiques fermées, de plus en plus nombreuses. qui se recouvre de graffitis. C'est ça l'aspect de la ville, hein. Ça ferme et les graffitis arrivent, recouvrent ça comme une marée, un peu comme des de végétation, de cygnes, comme ça, comme assez inquiétant, pas forcément lisible. Et les taxis jaunes qui attendent, les boutiques qui ferment, et des gens très très tendus, très anxieux, qui se demandent ce qui va leur arriver et qui comprennent ce qui leur arrive aussi petit à petit, quoi. Mais ils sont dans un psychodrame véritablement. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao. La Grèce ou le triomphe des idées qui ont fait faillite. Flight number 2, arriving from
Désormais, ce qui arrive était absolument impensable hier. C'était la science-fiction. Donc, on commence à s'habituer à l'idée que tout est possible. Même le pire cauchemar. Et on est en train de vivre un cauchemar.
Mais tu dis, Georges, tu dis que les îles grecques sont à vendre.
Absolument. Je crois qu'en Grèce, il y a commis l'îlot, rocher, etc., quelque chose comme 4000. On va commencer par vendre ce qui choque le moins. Hein. Mais rien n'est exclu. Je répète, l'impensable, c'est la réalité quotidienne. Et la question n'est plus ce qu'on vend et ce qu'on ne vend pas, mais c'est la lenteur des procédures de vente. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont voté le fameux fast track, en grec, dans le texte, qui veut dire que c'est une procédure de liquidation ultra rapide. C'est-à-dire quoi ? On respecte plus les lois. Et c'est des exceptions. On additionne les exceptions. Quelles lois ? Par exemple, on va vendre une île. Ben, il y avait quelques lois, même élémentaires, qui protégeaient l'environnement. Ben, on ne peut pas construire à moins de 300 mètres de la vague, comme on dit. Non, tout ça c'est fini. Donc il y a une dimension criminelle environnementale dans ce qui est en train de se passer. Et il n'y aura pas de retour, hein, vous pouvez imaginer. On vend tout, absolument tout.
Tout est à vendre. Sauf l'acropole, quoi. Merkel vous a rassuré.
Pour l'instant.
L'acropole,
pour l'instant.
On vient de passer devant, là.
Mais très probablement, ça pourrait ne pas être vendu, mais on pourrait la mettre en valeur. Et il y a pas mal de propositions sur ça, hein. C'est un tel endroit qui accueille, je sais pas combien, 3 millions de visiteurs par an, je sais pas quoi. Mais il n'a pas de grands restaurants, ou je sais pas, hein. Imaginer, c'est ce qu'on appelle mise en valeur.
Il y a une vieille blague en Grèce qui est celle des Grecs qui se sont exilés. Vous savez que il y a environ 10 à 11 millions d'habitants en Grèce et 10 à 11 millions de Grecs qui vivent, qui ont quitté le pays et qui vivent un peu partout dans le monde, dont les États-Unis. Et il y a une vieille blague qui dit, ah oui, c'est l'histoire du Grec qui s'est enrichi aux États-Unis et puis qui revient et qui fait reconstruire l'Acropole, le Parthénon, dans le style un peu Disney. Aujourd'hui, ce Grec qui va aux États-Unis, il n'est pas du tout sûr qu'il y aille s'y enrichir. Même si effectivement aujourd'hui on a une véritable exode des cerveaux, des gens en général, des jeunes diplômés en particulier, qui fuient ce pays à toute vitesse. La Grèce, bande annonce du film qui va se jouer en Europe, vous avez adoré le naufrage grec, vous allez aimer le cauchemar européen. C'est possible aussi que ça soit fait pour nous faire peur, en tous les cas qu'on exploite la peur des Grecs, bien réelle, pour la répandre à tous les Européens et peut-être même au-delà, et leur faire rentrer la tête dans les épaules et les rendre un peu plus asservis, entièrement préoccupés par leur survie. C'est pas tout à fait impossible. Si l'on songe que quelqu'un comme Lucas Papademos, qui est aujourd'hui le chef du gouvernement non élu, il faut bien le rappeler, est un ancien de la trilatérale. La trilatérale, think tank du début des années 70, qui s'inquiétait beaucoup, beaucoup de l'ingouvernabilité croissante à travers le monde. Et il fallait trop de démocratie. Oui, bien sûr, la démocratie. Quand il y en a trop, ça devient embêtant. On peut plus les gouverner, ces gens-là. C'est un souci constant et ancien de l'oligarchie. Oligarchie, démocratie, des mots qui sont nés ici. Et aujourd'hui, indéniablement, c'est l'oligarchie qui a pris la barre, pas seulement en Grèce. Parce que si beaucoup morflent dans ce pays, on ne peut pas dire que ce soit un malheur pour tous. Les armateurs, par exemple, s'en sortent fort bien. Le clergé grec, les 80 000, les un peu plus de 80 000 popes s'en sortent, eux, très bien. L'oligarchie grecque, elle s'en sort tout à fait très bien, elle qui a largement contribué à plonger le pays dans ce chaos. Et puis il y a aussi des personnalités politiques, dont des personnalités politiques françaises par exemple, pour qui cette crise est formidable, de façon générale, pas seulement la crise grecque, mais la crise qui frappe l'Europe, parce que, évidemment, leur bilan pourra s'excuser et s'expliquer par cette calamité, presque une calamité naturelle, tant est aujourd'hui naturalisée l'idéologie qui est derrière tout cela, qui est derrière, qui n'est même plus derrière du tout, qui est devant ou au-dessus, comme vous voudrez, qui est simplement le triomphe aujourd'hui de l'idéologie néolibérale. C'est la dictature des marchés qui s'est installée en Grèce, en Italie aussi, grandement, avec pour l'instant, l'approbation des opinions publiques. Jusqu'à quand? C'est ce que nous verrons dans les semaines à venir. Aujourd'hui, donc, dernier volet de ce voyage à Athènes, le triomphe des idées qui ont fait faillite. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Κριτή και Κάσο είναι κοντά, μπορεί να παντρευτούνε. Μπορεί να παντρευτούνε να λένε τα τραγούδια τους και ομόρφα να περνούνε.
Κάσος με τη Καρπάθο είναι μια επαρχία. Είναι μια επαρχία και μη μας ξεχωρίζετε για την αμαρτία.
Νησιά χωρίζουν, γίνονται όμως μια στεριά την ώρα που γλεντίζουν.
La dette grecque, comme la dette de tous les pays, c'est le produit des déficits qui se cumulent sur plusieurs années, sur plusieurs décennies même. Ça veut dire que il faut trouver les causes des déficits d'abord pour pouvoir comprendre comment la dette apparaît et grandit.
Alors voilà une économiste éminente rencontrée à Athènes, Maria Karamessini, qui est professeure à l'université et qui suit cette histoire de très très près, toute proportion gardée, c'est un peu le lordon le lordon athénien.
Ces déficits publics ont comme première cause un déficit de revenus fiscaux à cause du système de taxation grec qui donnait beaucoup de privilèges à certaines fractions du capital grec et à cause aussi d'un mécanisme de collecte d'impôts qui était consciemment inadéquat, qui ont permis de l'évasion fiscale. Les dépenses militaires ont aussi contribué beaucoup à l'apparition de cette dette-là.
Il y a une obligation qui est faite à la Grèce en matière d'armement, d'acheter des armes à la France et à l'Allemagne. Là, il y a une hypocrisie énorme.
Ce n'est pas une obligation d'achat, mais c'est une obligation d'honorer les commandes déjà faites.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme raison intérieure de la dette grecque ? On a parlé de l'armement, on a parlé des prélèvements fiscaux.
La surfacturation des travaux publics, par exemple, des contrats publics, qui est due à la corruption. Pas mal des entreprises étrangères, des multinationales étrangères, par exemple, ont beaucoup huilé les hommes politiques grecs pour avoir des contrats pendant les Jeux Olympiques, par
voilà,
exemple.
Voilà, nous y voilà.
Les systèmes de sécurité, les travaux publics, mais l'argent de la corruption, et c'est pour aussi pour décrocher le contrat. Ça revient aussi à un surcoût pour les gens, pour les contribuables. Et on ne peut pas isoler le phénomène Jeux Olympiques. Même si les Jeux Olympiques, c'est le summum de tout le système que je vous raconte.
Φίλοι των Ολυμπιακών Αγώνων, φίλοι θεατές από όλο τον κόσμο, η μεγάλη στιγμή τώρα φτάνει.
Chers amis des Jeux Olympiques, spectateurs du monde entier, le grand moment approche.
Dear friends of the Olympic Games, dear spectators from all over the world, the great moment has come.
Η ελληνική σημαία μπροστά.
Le drapeau grec en tête.
Led by the Greek flag. Welcome them.
Applaudissez-les.
And the athletes of the world.
Les athlètes du monde.
Alors vous vous souvenez de cette émotion, de cette unanimité collective autant en 2004, autant des Jeux Olympiques d'Athènes, la fierté des Grecs de voir les Jeux Olympiques se dérouler dans leur capitale, ça a eu un coût considérable pour ce petit pays. On avait avancé le chiffre de 9 milliards d'euros, mais c'est un chiffre qui est contesté et la note aurait été beaucoup plus salée. Les grandes entreprises qui ont construit les différentes installations ont poussé les prix et les factures. Il n'y avait pas eu d'appel d'offres et les factures ont été multipliées par deux, par trois. Il y a un scandale avec l'entreprise Siemens pour le système de sécurité. 2004, c'était 3 ans après le 11 septembre et on craignait des attentats terroristes et ça avait été un moyen et peut-être bien une raison de voir augmenter considérablement la facture pour le dispositif de sécurité. Bref, il y a eu des histoires de dopage absolument monstrueuses. Bref, ce serait tout un dossier et un travail de reportage que travailler sur les Jeux Olympiques à Athènes, mais ça expliquerait sans doute en partie, en grande partie peut-être, l'origine de la dette grecque, même si ça n'explique pas tout. C'est pas à cause de ça, hein, mais c'est une des raisons majeures. Aujourd'hui, les Grecs mettent en vente, la Grèce met en vente ces anciennes installations olympiques. On est allé visiter ces endroits, ces installations avec Antoine. C'est d'énormes, on appelait ça des éléphants blancs jadis en Afrique. Ces constructions incroyables dans les capitales africaines avec des fonds français. qui permettait de construire des n'importe quoi énormes et surtout de passer des commandes importantes, des marchés importants à des entreprises françaises du BTP et au passage de financer un certain nombre de partis politiques. C'est ce genre de corruption dont les Jeux Olympiques en Grèce ont été le théâtre. Alors, on est toujours avec notre économiste. La question, c'est de savoir quelle confiance elle peut faire aujourd'hui, on peut faire, et les Grecs peuvent-ils faire à ce nouveau gouvernement.
Le gouvernement a un mandat de continuer la politique d'avant et de mener à terme tous les engagements pris dans le programme sur lequel est conditionnée l'aide financière. Alors, ce gouvernement va accélérer les réformes structurelles qui étaient promises, mais après ils vont dire que nous n'avons pas pu aboutir à nos résultats voulus parce que nous n'avons pas bien appliqué le programme.
Il fallait encore plus.
Il fallait encore plus. Ils vont inventer de nouvelles mesures pour atteindre les objectifs du programme. En ce moment, il y a une guerre entre, d'un côté, le capital financier européen et les classes dirigeantes et les classes politiques et les États hégémoniques en Europe, d'un côté, et de l'autre côté, nous avons le peuple de l'Europe et les classes populaires qui subissent cette politique. C'est un affrontement. C'est un affrontement de deux camps qui sont clairement constitués. Et si vos auditeurs pourraient bénéficier de notre discussion, je pense qu'ils bénéficieraient de ce que pourrait l'exemple grec leur donner comme image de leur avenir proche. Parce que cet affrontement ne sera pas limité en Grèce, au Portugal, en Irlande,
pas seulement chez les
pigs. En Hongrie qui a demandé aussi l'aide de l'FMI. Ça va venir chez vous, ça va venir au cœur de l'Europe, parce qu'il n'y a pas de crise du capitalisme qui ne se propage pas dans une période de crise systémique. Alors la crise systémique exige des solutions radicales. En ce moment, c'est le néolibéralisme qui se durcit. Ce n'est pas le néolibéralisme qui se met en cause. C'est un néolibéralisme qui se durcit, qui mène le peuple à leur effacement de leurs acquis qu'ils ont pu avoir et construire pendant des décennies après la guerre. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on the skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Rendell Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the shape of a war theater. The revolution will not give your mouth sex away. The revolution will not give us the nerves. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of the column of rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if you finally screw Jane on Secular Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised.
Alors c'est marketing, promotion, tourisme.
Eureka Greek Events.
Oui, ça c'est le nom de la société.
D'accord. Oui, alors voilà, vous avez peut-être entendu plaque que nous lisons à l'entrée de ce petit immeuble d'Athènes, Eureka Greek Events. On est avec Madame Likas, Nathalie Likas, qui dirige cette agence de tourisme d'affaires. Oui, on disait en commençant, il y a des représentants, des commerçants, des représentants en bouclier, en plastique par exemple, ou en casque de chantier, enfin matériel de répression, etc., qui ont vraiment, il y a des marchés formidable en Grèce actuellement, allez-y, profitez-en. Et puis il y a les banquiers qui se baladent, ceux qui achètent, qui sont en train d'acheter la Grèce, il faut qu'ils puissent se promener, il faut qu'ils puissent visiter et profiter du Parthénon et de l'Acropole avant sa privatisation, ou peut-être la saisie. Oui, parce que peut-être que les biens grecs seront saisis un beau jour et se retrouveront dans un musée, allez savoir, à Munich ou à Berlin. Après tout, la colonisation, eh ben ça a été ça. Ça a été quand même de prendre, je sais pas quoi, des obélisques par exemple, à des Égyptiens, puis les mettre au milieu de Paris. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas l'Acropole pour le mettre, à Berlin ou, en attendant, c'est toujours là. Et amis à qui cette crise rapporte, eh bien, sachez qu'il n'y a pas que ce que vous raconte là-bas, si j'y suis, à Athènes.
Vous êtes là depuis avant le 17 novembre, puisque j'ai entendu celle du 17 novembre.
Oui.
C'était bien d'ailleurs. Ça faisait un peu vieille guerre, anciens combattants et réminiscences du passé. Hein. On n'est pas très dans le futur là avec ça.
Ben oui. Alors voilà, justement, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on équilibre un petit peu en donnant une image.
Allez, excusez-moi. Les enfants, je ne prends pas de ligne là. Vous voulez me préparer un petit café?
Oui, ok.
Hein, parce que je vous avais pas eu de café et un peu d'eau et puis les petits biscuits. Voilà, on va s'installer.
Voilà, en essayant...
Ça, c'est ma famille. Mes deux garçons, mon mari et moi.
C'est ici ?
Celui de Poros. On a marié ma nièce, un mariage à la grecque. Ça, c'est quand même le côté positif de la Grèce. Ouais. Une jolie île, un accès en bateau, et puis c'est un peu la magie quand même. Hein. Voilà.
Bah justement, alors voilà.
C'est la magie de la Grèce.
On compte sur vous pour la magie, ouais. Parce que là, pour l'instant, c'est pas Athènes. Athènes n'est pas très magique. Dites-nous un petit peu.
On victimise, ça c'est terrible. Je crois qu'il faut quand même que les gens soient un tout petit peu plus. Et ça correspond pas au tempérament grec. Les Grecs sont très fiers, ils étaient toujours très enthousiastes et ils ont vécu des situations autrement plus difficiles dans le passé. Donc cette situation où on voit les gens qui baissent le front, qui baissent le nez, ça c'est tout à fait inhabituel. Enfin, moi, c'est pas la Grèce que je connais depuis 30 ans et quelques que je suis installée ici. Parce qu'aussi, les médias se sont quand même beaucoup acharnés. Dès qu'il y a quelque chose en Grèce, ça devient excessivement plus important que partout ailleurs. Et moi, je le vois dans le tourisme d'affaires. Les gens qui viennent, là, je reçois des banquiers tout à l'heure, ils viennent pour travailler. Ils viennent aussi pour prendre la température de la ville. Ils viennent pour se rendre compte de ce qui se passe, puisque c'est une capitale européenne. Donc, ils viennent pour tout ça. Mais il faut qu'il y ait un sens à ce voyage. Donc, il faut qu'il y ait un retour qui soit tout de même flatteur aussi pour la marque invitante, qui valorise le pays également. On structure et on architecture, si vous voulez, un certain nombre de services pour qu'ils aient la vision la plus positive, évidemment.
Comment vous faites actuellement pour donner une image positive de ce pays qui est dans le marasme, qui s'enfonce, semble-t-il,
comme vous le dites. Moi, je pense que la Grèce a encore de beaux jours devant elle. Je pense qu'elle a suffisamment de ressorts pour, à un moment ou à un autre, étonner de nouveau en Europe. Moi, je me souviens, au lendemain des Jeux Olympiques, les clients que nous recevions ici étaient absolument subjugués par le formidable enthousiasme qui régnait partout, à tous les niveaux.
Pour vous, le bilan, selon vous, des Jeux Olympiques, ça a été une réussite.
Mais oui, les Jeux Olympiques ont apporté beaucoup à la Grèce, bien sûr.
Oui. Quels sont aujourd'hui les atouts que vous mettez en avant dans ce cadre-là, dans cette situation?
Il n'y a jamais eu de problème de sécurité en Grèce, ça pour les visiteurs. Ça me paraît fondamental quand on vient d'une capitale, quelle qu'elle soit, en Europe ou dans le monde entier. Une image de la Grèce aujourd'hui qui, certes, à travers les événements politiques, financiers, économiques et sociaux, peut être ternie, mais qui n'en demeure pas moins un extraordinaire foyer extrêmement vif encore de culture, enfin un patrimoine que nous nous employons à faire découvrir en marge des manifestations professionnelles justement.
Oui, mais alors ce patrimoine, cette ville en ce moment, on a des files de 50 taxis qui attendent le client, il n'y en a pas. On a des rues entières qui sont fermées, les boutiques sont fermées, on a ces panneaux partout à louer, à vendre, et ça va en augmentant. De tous les côtés, l'inquiétude monte. Pour vous, tout ça, c'est quoi ?
Si j'envoie des clients grecs, ou quels qu'ils soient, à Paris, je ne vais pas les emmener à Saint-Denis, sauf à la cathédrale éventuellement, les emmener à Barbès ou près de la gare du Nord où le soir on n'a pas tellement envie de traîner. Et si effectivement c'est pour aller voir des quartiers en perdition, ça n'a aucun intérêt, sauf si on fait un voyage individuel et qu'on a pris le parti de découvrir par-delà les images ce qui se passe dans un pays. Et on n'est pas non plus là pour montrer une face de la vie que les gens ne veulent pas voir, même chez eux. Évidemment que les images que l'on passe en boucle de manifestations sur la place Syndagma ou de manifestations de rue ici, là ou ailleurs, bien sûr que ça affecte ce tourisme dit d'affaires qui est très fragile. On ne veut pas que les gens soient inquiétés, que les gens soient en souci. Mais qui me dit aujourd'hui que Barcelone, Madrid, que Rome, que Lisbonne, que Paris même, ou Berlin, ou Londres, seront plus sécurisés dans les 3 mois, dans les 5 mois qui viennent?
Vous pensez que le gouvernement qui se met en place actuellement, c'est rassurant par rapport au précédent?
Aujourd'hui, à la tête des États, ce sont des financiers que l'on positionne. Donc, si ça rassure les marchés et que ça peut apporter effectivement une sécurisation du devenir d'un pays, bien évidemment qu'on ne peut être que positif. Il faut de toute façon que les choses s'organisent, se structurent, deviennent plus sérieuses. Tout ça est effectivement positif, oui.
Et vos banquiers, là, par exemple, viennent pour investir ?
Bien évidemment, un particulier qui aimerait envisager de s'offrir une retraite ensoleillée a tout intérêt à investir en Grèce. C'est évident, c'est évident. Je crois quand même que ce serait tellement frustrant de ne pas venir s'enrichir au contact de cette société brillante, cette civilisation prestigieuse. Ce serait un manque même pour tout homme moderne aujourd'hui. Vous savez, le slogan de ma société, c'est « La Grèce de votre passé culturel est devenue votre avenir événementiel ». Alors, c'est un peu compliqué. La Grèce de votre passé culturel est devenue votre avenir événementiel. Alors ça, c'est vrai qu'on se gratte le front, on se dit « qu'est-ce qu'elle veut dire ?». Et en réalité, c'est parce que je pense que notre population, notre cible de clientèle est tellement sensible quand même à ses fondamentaux qu'elle ne peut pas ignorer que tout vient de là pour nous, Européens, j'entends. Que cette Grèce profonde, elle a diffusé, elle a eu un tel rayonnement qu'il nous en reste encore un peu aujourd'hui à chacun d'entre nous. Athènes aujourd'hui, c'est à la fois Byzance, c'est aussi toute la modernité de l'époque néoclassique et c'est aussi l'art moderne, l'art futuriste. Je pense qu'on ignore qu'il y a un tel foisonnement de richesses créatives aujourd'hui. Et bon, moi je participe à la création des pages pour le guide Louis Vuitton, qui est un guide pour les experts en tourisme un petit peu éclectique. Il fourmille d'une mine de renseignements. Voilà 5 ans que je collabore avec les guides. Et que je leur ai ouvert les portes d'une Athènes qui ne m'y connaissait pas. Pas celle du luxe, tout le monde la connaît. Et par contre, ils ont besoin de moi pour leur ouvrir les portes des petites échoppes, des petites tavernes, celles des créateurs, d'échanger et d'avoir ce positivisme à tout prix. Dans Athènes, on visite beaucoup le musée de l'Acropole, évidemment, parce que c'est ce dialogue formidable avec l'Antiquité qui est aujourd'hui parfaitement intégré. On se rend aussi dans les quartiers où il y a les créateurs. On aime bien faire des ateliers dégustation avec effectivement le parcours des vins grecs. Et puis on va rencontrer aussi un personnage qu'on adore qui est le fameux sandalier Mélissinos qui vous fabrique une paire de spartiates à vos mesures en l'espace de quelques minutes dans sa petite échoppe, dans son atelier, et qui vous récite un joli poème ancien ou un extrait d'une pièce d'Aristophane. Enfin voilà, on s'amuse à jouer en permanence entre cette antiquité et la modernité, puisque finalement, on vient de là, l'antiquité, et on va vers où?
Donc, tradition et modernité.
Tout. En permanence. C'est ça. Antiquité, même antiquité. Et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la communication, que ce soit la politique,
un lien,
que ce
vous
soit...
Vous trouvez un lien entre l'activité de vos clients.
Toujours.
Et puis l'antiquité.
Ah, voilà. C'est le fil conducteur. Ouais. Bon, on s'appelle Eureka, c'est pas pour rien. Nos clients cherchent, on trouve. Et on s'attache vraiment à ce qu'il y ait un contact, à ce qu'il y ait des rencontres. Ça, c'est très important. Mm-hmm. Que les gens en repartent enrichis.
J'ai une petite suggestion, peut-être, pour être positif jusqu'au bout. Est-ce que cette situation, quand même, il y a un chaos social dans ce pays, enfin, il y a une contestation sociale, hein, on va rester mesuré. Est-ce que ça peut pas être intéressant aussi pour vos clients qui sont banquiers, qui sont hommes d'affaires, de pouvoir l'approcher dans une capitale européenne? Ils n'ont pas besoin d'aller à Nairobi ou aller à Mexico, qui sont dans un désastre économique, social, humain, terrible. Ils peuvent ici approcher cette réalité sociale. On ne peut pas vivre non plus dans des mondes étanches.
Absolument.
Donc un monde où on voit les merveilles
Absolument.
De l'apogée grecque antique qui côtoie aujourd'hui une misère sociale. Oui. Est-ce que ce n'est pas important aussi pour ces hommes d'affaires, ces banquiers, qui en général se drapent d'éthique, d'équité sociale, de pouvoir approcher et se rendre compte par eux-mêmes?
Oui, non, vous avez parfaitement raison. Et quand je disais que effectivement les visiteurs ne sont pas forcément là pour voir en coulisses la face cachée dont on aurait honte, vous savez, nous sommes des marchands de rêves, mais pas des illusionnistes. On doit véhiculer aussi du rêve. Et le rêve, ça peut être dans la rue qu'on trouve, ça peut être au bord de la mer, ça peut être avec un pêcheur, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être quelque chose de très convivial. Et il faut juste avoir ce sens de l'authenticité. Et c'est pas indispensable non plus de n'aller voir que les bas quartiers. Ça peut être trouver les gens très simplement dans leur village, dans leur station. Oh mon Dieu,
les affaires reprennent.
Tant mieux, grâce à vous.
Ok, merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Bon, écoutez, je vous offre encore un petit café parce que ça c'était un peu juste. C'est
ok,
bon,
merci. Ok, avec plaisir. Ça va. Το μικρό στράκι ζόλωμα κίτρινο κερί κλαίει η νύχτα κι η βροχή πέφτει αγιάζει στην ψυχή νύχτα και βροχή. Ζόλωμα κόμπο η καρδία ζόλωμα βέρα στα κλαδία χτύπα αμόνια και σφύρια κλαίω για παρηγοριά αχ για παρηγοριά μικρό περπάτα στα χείλη χάθηκαν και πάνε οι φίλοι δίχως λάθη το καντήλι μικρό περπάτα στα χείλη ως εντάζουμε και με λιώνει πάει να αρχίσει δε σταριώνει στο σταυρό και μας σταυρώνει ως εντάζουμε και με λιώνει άνοιξη και καλοκαίρι αύριο μαύρο περιστέρι τι θα πάρει τι θα φέρει άνοιξη και καλοκαίρι πήρε μύρισε τη μάρη γιώμησε το νιό φεγγάρι λαβωμένο παλικάρι πήρε μύρισε τη μάρη και βροχή. C'est retransmis directement sur la télévision nationale. Il y a des caméras qui se baladent et qui sont en train de retransmettre. On remarque à droite, là où nous sommes, c'est les hommes. De l'autre côté, c'est les femmes. Une séparation très stricte. En Grèce, l'école a pour mission de cultiver la conscience religieuse. C'est le but de l'éducation nationale en Grèce, cultiver la conscience religieuse. La religion, l'Église orthodoxe, est toute puissante. En Grèce, à 90%, les Grecs sont orthodoxes, et cette Église est
toute puissante est extrêmement riche. L'Église orthodoxe détient des biens qui sont énormes. L'Église est le deuxième propriétaire foncier après l'État grec, avec 130 000 hectares de terrain. Elle détient 1,5% de la Banque nationale de Grèce. Son coût est aussi très élevé. Les 10 000 ministres du culte sont payés par l'État, comme des fonctionnaires, pour une facture annuelle de 220 millions d'euros. En 2010, l'Église orthodoxe n'a versé que 2,5 millions d'euros au titre des impôts fonciers et sur le revenu. Il faut séparer l'État de l'Église et appliquer un impôt de 20% sur ses revenus commerciaux, disent certains très très peu nombreux, à qui l'on répond que l'Église a des œuvres, que l'Église fait le bien, que l'Église nourrit les pauvres. Elle le fera sans doute de plus en plus et pourra garder de son côté ses bons gros.
Je m'appelle Yangos Andreadis. J'ai fait mes études de doctorat en France avec Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet. J'enseigne à l'université Pantheon le théâtre, la culture et la langue, l'écriture plutôt. Et je dirige un petit théâtre avec une longue histoire. Il s'appelle L'Hydra, L'Hydra. C'était le siège d'une résistance culturelle contre la junte des colonels. Et depuis 20 ans, c'est le siège de notre centre dramatique. Nous faisons un genre qui je pourrais qualifier de musical politique. Notre dernier spectacle s'appelle « J'adore Memorandum ». « I love pneumonia ». On a joué ça dans le théâtre et à la place Syntagma, où ça a été la meilleure chose avec 380 spectateurs. Et évidemment, deux fous et un chien. Ça arrive toujours dans les places. Oui, oui.
Une rencontre avec Yangos, il s'est présenté, un homme de théâtre, un comédien, un traducteur qui fut l'ami de Jean-Pierre Vernant, de Pierre Vidal-Naquet. N'oublions pas que Vernant et Vidal-Naquet étaient avant tout des hellénistes. Voilà, une rencontre. Et Yangos nous emmène effectivement dans son petit théâtre, dans un quartier très sympa d'Athènes, qui tombe un petit peu en ruine, un peu à l'abandon, et on entre dans ce joli petit théâtre, lui aussi un peu à l'abandon, où nous attendent quelques personnes qu'il a fait venir là. Pourquoi ? Parce que il y a cette histoire de suicide, on dit, ah oui, les quantités de suicide, le pourcentage de suicide augmente en Grèce. Alors, on interroge, on dit d'où vient ce chiffre, comment ce chiffre a-t-il été établi. Et là, on va comprendre avec les témoins que Yangos a fait venir pour nous, comment ça se passe, quelle est cette histoire de suicide, témoignage, preuve et une partie de révélation.
Je m'appelle Thanasis. Je travaille dans ce qu'on appelle le métal, c'est-à-dire c'est la réparation des grands bateaux. J'appartiens à un syndicat des travailleurs dans ma zone. Syndicat métallurgiste de Pirée.
C'est quelle zone?
Pera Makeratsini είναι... Je travaille à Pera Makeratsini.
Αυτό που λέμε ελεύθερη ζώνη επισκευών στην Ελλάδα.
C'est le sud-ouest d'Athènes, près de la mer, une zone franche de réparation des bateaux.
Εδώ και τρία χρόνια, περίπου, η κατάσταση είναι δραματική.
Pendant les trois dernières années, la situation est devenue dramatique.
Αυτά που είπαμε, 95% ανεργία. Και πολλοί κόσμος να
On peut dire que 95% des gens est dans le chômage. La moyenne, pour ceux qui travaillent, c'est de 10 jours par an.
10 jours de travail par an.
Oui, c'est-à-dire que les gens n'ont plus aucun revenu et aucune couverture sociale non plus.
Κοινωνική κάλυψη δεν έχουν. Το μόνο που καταφέραμε σαν και μόνο εμείς στην Ελλάδα είναι να έχουμε ιατρική κάλυψη. Τίποτα άλλο.
Il est vrai, pour le 95%, il n'y a plus aucun revenu et aucune couverture sociale, parce que aussi les institutions qui aident les chômeurs ne les couvrent plus, parce que le temps est déjà passé.
Μέσω συνδικάτων, ιατρική κάλυψη. Όλα τα άλλα, περίπου το 85%, δεν δικαιώνεται πια τίποτε. Έχει περάσει και ο χρόνος του ΑΕΤ, τα πάντα, τα απογνωρίζει.
Mais le syndicat a quand même assuré la couverture médicale.
Alors, on nous dit, il y a des suicides. Est-ce que tu as des témoignages ou quelque chose à nous dire là-dessus?
Ναι. Πρώτα απ' όλα, στην Ελλάδα, δεν θα μάθουν ποτέ πώς να το τονίζει, γιατί η ίδια οικογένεια δεν το βγάζει παρά έξω, για λόγους της ευθυγούς.
Il y a un problème en Grèce. Normalement, il y avait auparavant au moins le même problème partout en Europe. C'est que le suicide est prohibé par la religion.
Στο δικό μας, στο χώρο, ας πούμε, δεν έχει καμία οικογένεια να δηλώσει αυτοκτονία.
Donc même pour ensevelir quelqu'un, il faut qu'il ne soit pas suicidé.
Τέσσερις είχαμε στο χώρο μας, η μία είναι δικιά μου, δηλαδή με άνθρωπο που ξέρω, δεν έχει καμία να δηλώσει αυτοκτονία.
C'est la raison pour laquelle les statistiques sont très difficiles parce que les familles évitent de déclarer cette affaire-là pour des raisons religieuses et aussi pour des raisons sociales.
Comment tu as appris ça?
Εγώ είμαι μέλος συνδικάτου. Λοιπόν, ο ένας ο συνάδελφος, ακόμα και την περίπτωση, δεν είναι θέμα.
Comme je viens de vous dire, je fais partie d'un syndicat. Les gens viennent pour demander de l'aide, pour parler de leurs problèmes, etc.
Έβαλε το πιστόλι, το δίκανε από κάτω και αυτοπυροβολήθηκε.
Personnellement, je connais 4 cas dans la zone.
Ατύχημα δηλώθηκε από την οικογένεια.
Donc, parlons du premier cas auquel j'étais très proche, même du point de vue travail.
Για λόγους ασφάλεις, ναι. Έβαλε το δίκανε εδώ και πυροβολήθηκε. Αυτό το ξέρουμε γιατί μιλήσαμε και με τη γυναίκα και με τα παιδιά του και με συγγενείς. Λοιπόν, μεταξύ μας.
C'est quelqu'un qui a mis le fusil sous le menton et a tiré. La famille est venue, nous a parlé. On a su tout immédiatement parce que c'était quelqu'un de très proche. Mais la famille a parlé d'accident parce que il y a la question de la pension et aussi du problème de la honte sociale et de la prohibition religieuse. Le même s'est passé avec les 3 autres cas.
Dans les cas que tu décris là, pour toi, la raison de ces suicides, elle était d'ordre économique, d'ordre social ou bien des ordres d'ordre personnel.
C'est Nikia και πέρα μου. Είναι δηλωθήκαν ατυχήματα. Σκόνταψε και έπεσε. Για την περίπτωση που μπορεί να γνωρίζω εγώ προσωπικά. Γιατί δουλεύαμε το παιδί μαζί. Είχε πάρει 2 δάνεια.
Alors, en ce qui concerne le premier cas, c'était quelqu'un qui avait pris 2 emprunts pour sa maison et il était totalement dans l'impasse de faire quoi que ce soit.
Σταματήσει η δουλειά, δηλαδή πριν κόψει η δουλειά, δουλεύαμε μαζί στο συνεργείο.
C'était quelqu'un de très gai, qui était celui qui donnait toujours du courage.
Λοιπόν, ήταν από αυτούς που φτιάχναν το κέφι στο συνεργείο. Απλά έπεσε στην περίπτωση.
Et de la joie, ce que les Grecs appellent kefi, au reste du groupe.
Alors là, on parle de 4 cas. Est-ce que tu as des échos de cas ailleurs, en Grèce, à Athènes?
Από άλλα σωματεία, ναι, υπάρχει μια τέτοια ροπή προς την αυτοκτονία και με τους οικοδόμους που μιλάμε, έχουμε συγκεκριμένα σωματεία έτσι. Και με τους ναυτεργάτες που έχουν τεράστιο πρόβλημα και αυτή τώρα τελευταία.
Oui, on n'a pas une connaissance directe. Mais on est en contact avec d'autres syndicats, syndicats des marins, syndicats des ouvriers du bâtiment.
Αλλά συγκεκριμένα όχι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτοκτονίες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε ναυτικούς που έχουν κρεμαστεί, ξέρουμε για οικοδόμους.
Dans les deux cas, ils nous énumèrent aussi d'autres suicides dont ils ont une connaissance directe dans le même sens. Dans lequel je viens de parler pour mes collègues suicidés.
À chaque fois, c'est des hommes qui sont face à des dettes qu'ils ne peuvent pas assumer.
Εμείς, σαν κλάδος, είχαμε πάντα ανεργία. περίοδος ανεργίας. Πάντα, πάντα. Από τότε που το 80 που μπήκα εγώ στη ζώνη μέχρι τώρα, είχαμε περίοδος ανεργίας.
Effectivement. Il y a le chômage. Il y a les dettes. Mais il faut bien mentionner que le chômage existait toujours pendant les trois dernières décennies.
Τώρα όμως το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή δεν υπάρχει έξοδος.
Maintenant, il y a une chose qui a changé.
Και όλα τα παρελκόμενα.
Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de perspective. Et souvent, il faut admettre que la solidarité vient de manquer.
Quelle est la cause de tout ça?
Το σύστημα τελείως.
Le système ne peut pas trouver des solutions convaincantes.
Δεν έχει που να εξάγει πια την κρίση του. Και εσείς οι Γάλλοι το ξέρετε καλύτερα.
Dans un sens, c'est un système
δεν
épuisé.
Δεν έχει πιο λαό να πεινάσει πια.
Il ne peut plus exporter sa crise. Et je crois que vous, Français, êtes capable de juger
τελείωσε.
Ceci aussi bien que nous.
Δεν μπορεί, δεν πάει άλλο. Τελείωσε ασήμαντε, δεν το συζητάω. Δεν πιστεύουμε ότι κυβερνάει κανένας πολιτικός. Πια.
Je ne crois pas que c'est les politiques en Grèce ou ailleurs qui décident en ce moment pour l'économie. Je crois que les responsabilités grecques existent, mais sont infimes, mineures, secondaires. Ce qui est en cause est le système capitaliste mondial qui en ce moment est dans une crise énorme.
Merci à tous, merci à Georges Mitralias, Nathalie Likas, Panos Totsikas, Yangos, Andréadis, Maria Karamessini, merci à Grégory Salomonovic pour le montage, merci à Katrina et à Aris de Deptocratie, merci à Hélène Serrelosé, Xenia Chrysochou, Fabien Perrier de l'UMA, Thomas Jacobi, Sonia Mitralias, Nikitas Kanakis, Panos Papanikolaou, Maria Papadopoulos, Panayotis Sotivis, Nikos Fotopoulos, merci à Statis Kouvelakis, Yanis Androulidakis et Nikos Panayotopoulos, et merci aussi à Thierry Dupin, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari, etc. La technique aujourd'hui, Franck Adhérer et Antoine Chao réalisaient cette émission assistée de Marina Touillez. Le numéro du répondeur de la base où je suis, c'est le 01 56 40 37 37.
J'avais l'habitude de nager à la piscine, mais depuis que j'ai gagné à Euromillions, j'en ai mis une dans mon jardin. Puis bon, bah, j'ai un peu agrandi. Bah oui, maintenant je nage 3000 mètres chaque matin, toujours en une seule longueur. C'est comme ça, j'ai jamais su faire demi-tour.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Tirage Euromillions le vendredi et le mardi. Ce vendredi, jackpot de près de 26 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
16 heures et quelques secondes sur Inter. On se retrouve lundi à 15 heures pour la basse. Si j'y suis, bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Mathilde Dehimi. Salut!
Le Royaume-Uni fait bande à part. Selon le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, 26 des 27 pays seraient prêts à adhérer à un pacte budgétaire plus contraignant pour résoudre la crise de la dette. Un accord qui prévoit de plus contrôler les budgets nationaux et de réformer le futur mécanisme européen de stabilité. De son côté, le Premier ministre britannique David Cameron vient de rappeler que Londres avait tout intérêt à rester dans l'Union européenne. À Paris, satisfaction du gouvernement autour de cet accord. La ministre du budget et porte-parole du gouvernement disait ce matin espérer un bon accueil des agences de notation. Valérie Pécresse.
Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est donner plus de crédibilité à l'euro, c'est avancer dans la voie de la stabilité, de la discipline budgétaire et surtout rassurer les investisseurs. Rassurer les investisseurs, c'est notamment leur dire que plus jamais nous ne ferons appel aux capitaux privés lorsqu'il y aura un pays en difficulté. C'est le signe d'une zone euro totalement solidaire de chacun de ses membres et dans lesquels les États assume même cette part de solidarité. C'est très important parce que ça veut dire qu'aucun État membre de la zone euro ne fera plus défaut.
Valérie Pécresse, ce matin sur iTélé, les marchés européens comme les marchés américains réagissent plutôt bien. Wall Street a ouvert en hausse, plus 0,35% pour le Dow Jones. En Russie, toutes les ficelles sont bonnes pour empêcher de manifester les opposants de Vladimir Poutine. Beaucoup de lycéens et professeurs de Moscou contestent la victoire du parti majoritaire aux législatives. Ils sont donc tous convoqués en urgence pour plancher demain après-midi sur un examen de russe, à l'heure où doit partir la manifestation des opposants. En Inde, le bilan de l'incendie dans un hôpital de Calcutta est revu à 89 morts. 6 directeurs de l'hôpital ont d'ores et déjà été mis en examen pour avoir abandonné leurs patients dans l'incendie. Du mieux dans les transports de la région PACA, les contrôleurs ont finalement suspendu leur droit de retrait. L'un d'entre eux a été frappé tôt ce matin alors qu'il demandait à un passager d'éteindre sa cigarette. Le trafic va donc reprendre progressivement, perturbation maintenue en revanche dans l'Essonne. Droit de retrait pour les chauffeurs de bus, une conductrice a reçu ce matin du gaz lacrymogène. Une centaine de salariés a cessé le travail. EDF va renforcer les dispositifs anti-intrusion de ses centrales nucléaires. Pour son patron Henri Proglio, les récentes intrusions des militants de Greenpeace sont des actes stupides et intolérables. Henri Proglio assure que la sûreté des installations n'a pas été remise en cause. Les salariés de François et la Tribune à l'assaut de l'Arc de Triomphe à Paris les ont brièvement déployé une banderole et allumé des fumigènes sous le regard étonné des touristes. Les deux quotidiens sont menacés de disparition, du moins dans leur version papier. Il avait révélé les fiches de Jamel Debbouze et Johnny Hallyday dénonçant l'utilisation du fichier STIC sur les infractions constatées. Le commandant Philippe Pichon est bel et bien mis à la retraite d'office. Le tribunal administratif de Melun l'a confirmé aujourd'hui. Il rejette ses 3 recours. Philippe Pichon est également radié des cadres de la police.
Demain, à partir de 20h, font des artistes exceptionnels avec le groupe Zebda. 8 ans après leur dernière tournée,
le groupe Zebda se reforme
et vous offre, en direct du centre Barbara Fleury-Goutte d'Or à Paris, les titres de leur tout prochain album, Second Tour.
D'ailleurs, ce soir, chaque fois qu'on vous dira merci, histoire de changer, vous répondez de rien, quoi.
Zebda en live. Une soirée exceptionnelle présentée par Isabelle Dordain en direct du centre Barbara à Paris. Un événement à suivre sur France Inter. Demain, à partir de 20h. France Inter. La différence.
16h04 sur France Inter. Bonjour Didier Varro.
Bonjour Mathilde Dehimi. Je suis ravi. Alors je vais enlever mes lunettes parce que sinon je vous vois pas. Je suis, presbyte. Voilà, je suis ravi de vous rencontrer de visu.
Eh ben exactement.
Est-ce qu'on vous retrouve à 17h ?
On me retrouve à 17h.
Avec plaisir. Allez, c'est parti. Juste avant de recevoir nos deux invités du jour, Bertrand Belin et le groupe The Do, un extrait du mix libre du mois de décembre. Ce mix libre, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site franceinter.fr. FR, c'est le groupe stéphanois Broadway, cet extrait de l'album solo System Revolution.
Day of reckoning, it's coming down as much of me as I can, while I can soak in an extra freeze. There is a long new winter that would have been expected.
Le mix libre, à retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est né à Auray, dans la Bretagne Sud. Ils sont nés à Paris. Il a appris la guitare qui avait été laissée par son frère. Ils se sont rencontrés en 2005 à l'occasion de la composition de L'Empire des Loups, le film de Chris Nahon. Il dit que la chanson s'est fait pour être chantée et non lue. Il dit que la voix de Olivia Merilati sonne comme un hautbois. Il y a de la rédemption chez lui. Il y a de la perdition chez eux. Il y a du Ravel et du Mendelssohn dans son album La Perdue. Il y a toujours Béla Bartok dans leurs paysages mentaux. Il considère que la musique fut sa planche de salut. Il se voit comme des spéléologues de la musique. Il y a de la contemplation cistercienne dans sa musique. Il y a de la force vaudou dans leur création. Il est auteur, compositeur, interprète. Eux non plus. Il s'appelle Bertrand Belin, il s'appelle Zedo. Un prénom et un nom pour deux initiales. BD. Quand la musique donne, voici venir BD. BD non pas comme bande dessinée. Belin Zedo cet après-midi en hyperlien sur France Inter, l'endroit pour une drôle de rencontre. Bonjour Bertrand Belin.
Bonjour.
Bonjour Olivia Edan du groupe Zedo.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va bien.
Alors vous vous connaissez un petit peu. Vous êtes d'ailleurs abrité par le même label, hein ?
Oui, je connais mieux leur musique que même, mais ouais, c'est vrai. On s'est croisés quelques fois par chance, mais je connais beaucoup mieux leur musique que même.
Alors, honneur à la fille, une petite question à Bertrand Belin que tu aimerais lui poser comme ça, même si vous vous croisez quelques fois dans les couloirs ou dans les bureaux de cet immense label 5-7.
Ouais, bah alors moi j'aime bien poser cette question, c'est quel est ton plaisir musical secret et un peu honteux.
Tu veux dire d'un point de vue mélomanie, quoi, ce que je pourrais aimer écouter et qui serait difficile à dire. Je serais du coup obligé de dire à l'antenne devant.
On y va
les
direct.
Français.
Que nous sommes en direct, il est 16h08 et cette émission est très écoutée.
Attends voir, parce que après le spectre de la honte, il est variable chez chacun.
Oui.
Donc je vais essayer de trouver quelque chose de bien honteux quand même pour bien répondre à ta question.
Okay.
Voyons voir. disons que, bon, j'évacue Supertramp parce que c'est admissible quand même.
Ouais,
c'est pas
vrai.
Trop honteux. Qu'est-ce que ça pourrait être alors, disons. Ah oui, il faut que je réfléchisse un peu quand même.
Pas mal, Supertramp.
Oui, mais avec le retour du saxophone, ça devient presque.
Ouais,
c'est vrai. Non, mais par exemple, c'est vrai que j'aime beaucoup les chansons du premier disque de Dire Straits, que personne n'écoute plus aujourd'hui. Et l'album qui porte le nom du groupe, Dire Straits, il y a dedans des morceaux quand même assez fous. À l'époque, ils étaient quand même complètement dingues de Gigi Kale et de Dylan. Ça se sent vachement. Après, ils sont arrivés avec des orgues laser et tout type de de choses, mais il y avait une bonne rumba là-dedans, c'est ce qui me plaisait bien.
Bertrand Belin, il faut rendre l'appareil au groupe Zedo, tu peux coincer Olivia ou Dan ou les deux.
Ouais.